Bonsoir Marie.
Bonsoir Arnaud. Une information doit-elle être vraie pour être intéressante? Nous baignons au quotidien dans un flux incessant de nouvelles et il est parfois difficile de faire le tri. Oui, mais voilà, peut-être le critère de la véracité n'est pas le bon. Ou en tout cas, il n'est pas le seul à devoir être examiné. Pierre Bayard, bonsoir. Vous êtes essayiste, psychanalyste, professeur de littérature à l'Université Paris 8. Vous avez écrit une trilogie qui désamorce cette question de la vérité. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, puis comment parler des lieux où l'on n'a pas été. Et vous avez publié récemment le troisième volet, toujours aux éditions de Minuit, comment parler des faits qui ne se sont pas produits. J'ai l'impression, Pierre Bayard, que nous avons ces dernières années dénigré le pouvoir de la fiction, par peur sans doute, ou sous le joug d'une morale qu'il faudrait alors définir. Ne sommes-nous pas en train de réduire dangereusement le champ de la fiction ?
Alors, je crois qu'il faut préciser ce qu'on entend par fiction, qui est un terme très général. D'une manière générale, je pense qu'il y a une sorte de stabilité de la fiction, en particulier dans la sphère politique, puisque nous sommes dans les derniers jours de la présidence Trump et on parle beaucoup de la fiction nécessairement. Contrairement à ces termes galvaudés aujourd'hui à la mode de fake news ou de post-vérité, je pense que la fiction a toujours été présente dans l'histoire de l'humanité, qu'elle est même une composante, une constituante du psychisme humain. Je dis dans mon dernier livre que l'être humain est un être de récit. Donc je pense plutôt qu'il y a une stabilité de la fiction. Ce qui a changé, en revanche, c'est la diffusion de la fiction, qui est des fake news, qui est devenue exponentielle avec Internet. Mais n'oublions pas quand même qu'Internet n'est pas que le lieu du mensonge, c'est aussi le lieu de la vérification. Alors, ceci pour répondre de manière très globale à votre question, donc je pense plutôt qu'il y a une stabilité. Si l'on descend à un niveau plus local, en particulier en France, dans la sphère littéraire, et là on prend fiction quand même avec un sens différent, là il y a peut-être une régression de la fiction en raison du déferlement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction, c'est-à-dire de la mise en scène par les écrivaines et les écrivains de leur vie personnelle. Réduction de la fiction que personnellement j'ai plutôt tendance à regretter, pensant que Dieu a créé les romanciers et les romancières pour inventer des personnages et des histoires et pas pour raconter leur vie.
Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas atteindre un degré de réel plus intense justement par la fiction ?
Oui, c'est le cas de la littérature, qui va souvent transposer des événements de la vie réelle et atteindre à une autre forme de vérité que la vérité historique. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure on a le droit d'injecter cette forme de vérité dans d'autres domaines que la littérature elle-même. Je pense à l'histoire ou au journalisme. Il y a un exemple que je prends dans mon dernier livre, qui est celui de Chateaubriand, qui raconte le plus sérieusement du monde ses dialogues avec le président des États-Unis, George Washington, précisant tout de même qu'il est probable que le président des États-Unis a oublié leurs entretiens, ce qui est d'autant plus vraisemblable que les historiens ont montré qu'il ne s'était jamais produit. On est là dans un cas très intéressant parce que c'est un exemple limite. Les Mémoires d'Outre-Tombe sont un grand texte littéraire, mais ça se présente aussi comme un ouvrage d'histoire personnelle et collective. Jusqu'où a-t-on le droit, dans le récit de l'histoire, d'injecter des éléments de transposition qui relèvent de la littérature ? C'est une des questions que je pose dans mon livre, comme je la pose pour le journalisme. Je prends l'exemple d'un journaliste allemand, Klaas Relotius, qui s'est fait éjecter du Spiegel après avoir transformé un certain nombre de ses reportages, mais finalement à partir de procédés que l'on trouverait en littérature sans que cela nous choque. Invention de noms de personnages, ajout d'un pistolet à quelqu'un qu'il rencontrait qui était responsable de la sécurité. Des petits éléments supplémentaires qui relèvent de la vérité littéraire et dont on peut se demander s'ils ont leur place dans le type de vérité dont rêve la vérité journalistique.
Mais est-ce que finalement la problématique ne vient pas du fait de comment on présente cette fiction ou comment on présente le fait qu'on est en train de relater ? Est-ce que si l'on dit qu'il est vrai, il faut qu'il soit absolument vrai ? Est-ce qu'on le présente sous une forme littéraire ? Il peut, par essence, être une fiction ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un pacte hein, qui est scellé entre l'auteur de la fiction et la lectrice, le lecteur, et normalement ce pacte devrait préciser dans quel genre on se trouve. Il faudrait demander à Donald Trump de respecter ce pacte et de préciser chaque fois qu'il invente un mensonge qu'il est dans le domaine de la fiction littéraire. Mais je ne suis pas sûr qu'il accepterait cette théorie du pacte.
Vous êtes psychanalyste, alors on dit que dans l'inconscient, la notion de vérité n'existe pas. Alors est-ce selon vous, ce besoin de fiction qu'on a, c'est un débordement de notre psyché qui tente à s'exprimer comme elle le fait dans l'inconscient?
Trump est une sorte d'allégorie de notre inconscient, une parabole de l'inconscient. Il refuse de voir la réalité en face. Il peut faire alterner des énoncés complètement contradictoires. Et en effet, l'inconscient relève d'une forme de vérité subjective qui a peu à voir avec la vérité historique. Je prends l'exemple dans mon livre de Misha De Fonseca, qui a fait un best-seller Survivre avec les loups, où elle racontait comment, traversant l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle avait été adoptée par des familles de loups. C'est un mensonge historique, mais c'est une vérité subjective, comme l'a montré Boris Cyrulnik, qui a travaillé sur cette affaire. Elle avait besoin de se raconter cette histoire pour rester cohérente avec elle-même, pour survivre. Et ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que ce type de fiction ne fonctionne que s'il y a des personnes pour y croire. Le best-seller a fonctionné parce que des centaines de milliers de lectrices, de lecteurs ont accepté cette idée que les loups pouvaient défendre les valeurs de la famille et adopter les enfants en détresse.
Alors, y a-t-il selon vous des vertus de ces histoires fausses?
Il y en a, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, et en particulier dans le domaine scientifique. Vous avez des découvertes scientifiques, des notions importantes, par exemple en sciences humaines, qui ont été inventées à partir d'histoires fausses. Pensez à tous ces travaux sur la panique qui se fondent sur cet exemple mémorable de la grande panique qui a lancé sur les routes des États-Unis des centaines de millions d'Américains en octobre 1938, après qu'ils ont écouté l'émission d'Orson Welles leur racontant l'arrivée des Martiens. Eh bien, des travaux scientifiques tout à fait sérieux ont été faits à partir de ce qui est en fait une fake news, puisque les recherches ont montré qu'il n'y avait jamais eu d'autre panique que dans l'imagination d'Orson Welles et de quelques journalistes. Histoire fausse au départ, invention et pourtant découverte scientifique solide.
De même, quand vous citez l'histoire de Freud hein, dans votre livre, son texte très fameux sur Léonard de Vinci, qui part d'une information fausse au départ.
Voilà, Freud veut montrer qu'une partie de notre énergie psychique peut être détournée de la sexualité vers des activités scientifiques ou artistiques. Et quel plus bel exemple que celui de Léonard de Vinci, qui avait une vie sentimentale très pauvre et qui consacrait toute son énergie à créer. Manque de chance, les recherches ont montré qu'il avait au contraire une vie sentimentale extrêmement riche. Simplement, elle était homosexuelle, donc à l'époque, il était impossible de le dire.
Merci beaucoup, Pierre Bayard.
Et merci à vous, Marie Sorbier.